Bonjour. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Donc, il sera repris ensuite et j'en donnerai encore 3 jusqu'au 30 mars. Ça se terminera là puisque mes 4 derniers cours, je les donne à Pékin au mois de mai. Donc, si certains veulent venir m'entendre à Pékin, à l'université Zhenmin, ils sont les bienvenus. Et je ne sais pas si celui... Je ne sais pas si ce sera... pris en vidéo. Je pense que oui. Je termine sur ce qu'on disait sur nos amis les Eftalites. J'en étais donc venu à ce qu'on peut dire sur leur armée. Je vous ai montré la reconstruction un peu sensationnelle, mais en fait très crédible, de Valéry Nikonorov, avec à la fois donc les personnages typiquement aristocratiques eftalites avec leur crâne déformé artificiellement en archer et d'autres archers habillés à la légère. Mais j'avais quand même émis la supposition que les armées eftalites incorporaient des cavaliers lourds hérités de la période précédente, la période Kouchane. Ce qui fait que peut-être Nikonorov n'a retenu que la version des archers, c'est que, contrairement à leurs prédécesseurs, les Eftalites ne se font pas représenter sur leur monnaie en armure. Mais ça peut très bien être un choix culturel, pour manifester, comme ils sont en rupture sur tout, je l'ai dit, ils ne reprennent pas les titres royaux antérieurs, ils reprennent très peu de choses de l'iconographie antérieure. Comme ils sont en rupture sur tout, ils pouvaient être aussi en rupture là-dessus et vouloir montrer d'où ils sortaient. Ils sont représentés en armure, mais sur des monnaies d'or très stéréotypées et mises en Bactriane, qui sont en fait la continuation des séries antérieures. On sait... on avait vu un témoignage chinois qui nous indiquait qu'ils étaient très, très redoutés comme guerriers, ce que les récits iraniens montrent amplement. On sait qu'ils sont particulièrement habiles en archerie. On le sait par le témoignage de Procope, qui était au siège d'Amida, le deuxième siège d'Amida, le premier donc, était 2 siècles avant, en 502. Il a donc vu des contingents eftalites incorporés dans l'armée sassanide, et justement les eftalites ont été utilisés pour une opération très complexe qui supposait une grande précision de tir. Donc ils étaient appréciés comme archers. Alors un aspect dont j'avais dit un mot, c'était l'existence chez eux d'un compagnonnage militaire qui suppose en fait un certain mode de vie en commun et même de mort en commun. Ce que cite Procope, les citoyens riches ont pour habitude de s'attacher des amis au nombre de 20 ou plus, selon les cas, qui deviennent des compagnons de banquet permanents et ont part à toutes leurs propriétés, bénéficiant d'une sorte de droit commun en cette affaire. Puis lorsque celui qui a rassemblé cette compagnie meurt, il est de coutume que ces hommes soient enterrés vivants avec lui. C'est le seul témoignage qui nous dit cela. Alors, on sait que chez les Scythes, il y avait des rituels de sacrifice humain quand le chef mourait. On tuait des serviteurs, des captifs et éventuellement certaines de leurs femmes. On ne parle pas de compagnons qui... Alors, c'est peut-être une exagération de Procope, peut-être pas. Ce témoignage est intéressant parce qu'on voit peut-être là la préfiguration d'un mode d'organisation militaire qu'on va trouver plus tard dans la société sogdienne. Alors, Étienne de la Vessière a beaucoup, beaucoup écrit là-dessus, notamment dans son livre « De Samarcande à Samara, élite d'Asie centrale dans les armées abbassides », un livre vraiment fondamental. Et on sait que les Sogdiens avaient un système de compagnonnage militaire qu'on appelait les Chakars, c'est probablement une dérivation d'un mot iranien qui veut dire fils adoptif. En fait, les chefs s'entouraient de Tchakar. Alors, c'est connu. On sera amené d'ailleurs à en parler à propos des fortifications, puisque dans certains cas, au moment, les récits de la conquête arabe nous montrent que certains des châteaux sogdiens sont effectivement défendus par des Tchakar. Ces Tchakar sont connus également dans des témoignages sur des armées commandées par des sogdiens en Chine. Et Étienne de la Vessière voit là l'une des sources de ce qui serait l'institution abbasside des soldats esclaves. Pas tous soldats esclaves d'ailleurs, mais c'était justement les abbassides se méfiaient énormément des Arabes, bien que l'étant eux-mêmes, et ils s'entouraient à Bagdad d'une garde qui au départ était en fait une garde venant d'Asie centrale. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'élément turc esclave, des esclaves achetés sur les marchés ou capturés, enfin en Asie centrale, est venu relayer l'élément iranien oriental. Et alors, au fil du temps, selon l'hypothèse d'Étienne de la Vessière, ce serait en fait l'origine d'un système qu'on connaît plus tard, qui est le système des Mamelouks. C'est-à-dire, à nouveau, la garde, l'élite militaire qui vient, en fait, de soldats esclaves. Le système des Mamelouks va subsister en Égypte, sera aboli dans l'Empire ottoman. Le système des Mamelouks va subsister en Égypte jusqu'à la conquête ottomane du début du XVIe siècle. Là encore, ça préfigure d'une certaine manière le système des janissaires, qui sont également des esclaves achetés. Donc il y aurait là tout un développement dont les premiers indices pourraient bien se trouver dans cette organisation de l'armée heftalite. Alors, cette indication donnée par Procope, selon moi, c'est une hypothèse peut-être très avancée, pourrait expliquer l'étrange renseignement qu'on trouve chez Tabari, qui lui nous donne le point de vue royal iranien vis-à-vis des Heftalites. Péroz ensuite marcha contre un peuple appelé les Heftalites qui s'était emparé du Torarestan. Au début de son règne, il avait renforcé leur pouvoir. On a vu en effet qu'ils étaient intervenus avant même d'être arrivés comme puissance impériale, ils étaient intervenus dans la querelle de succession entre Péroz et son frère et l'avaient aidé à monter sur le trône. On dit qu'il pratiquait la sodomie et à cause de cela, Péroz n'estimait pas admissible de laisser le pays entre leurs mains. Étrange casus belli quand même. C'est quand même la première fois qu'on entend parler d'un peuple qu'on va combattre à cause de ses habitudes sexuelles. Alors, je me demande si derrière ça, il n'y a pas des stéréotypes ou des réalités qu'on appliquait justement à l'existence de ces compagnonnages militaires. Ces gens qui vivaient dans une situation d'extrême proximité, on pourrait peut-être même dire de promiscuité, c'est un petit peu comme les compagnonnages militaires dans la Grèce ancienne, étaient prêts à mourir les uns pour les autres, étaient liés par des serments, des sortes de fraternité, etc. Et le stéréotype ou la réalité associant les pratiques homosexuelles au compagnonnage militaire fermé, c'est quelque chose qui a une longue histoire. On sait ce qu'on en disait pour la Grèce ancienne. Les roulams, justement, les soldats esclaves des Abbassides, puis des dynasties turques qui les ont succédés, on disait ça aussi sur eux. Il y a des anecdotes sur Mahmoud de Razna et ses roulams. Je vous rappelle qu'on a. C'est l'accusation principale qu'on a portée contre les Templiers. Et on discute encore chez les médiévistes pour savoir si tout était faux ou pas. Il y avait aussi l'accusation de blasphème, mais il y avait cette accusation-là. On a dit ça sur les. On a dit ça. Enfin, c'était la réalité chez les janissaires. Et puis, c'est aussi ce qu'on a dit sur la Légion étrangère. Il y a longtemps. Je terminerai par cette présentation des Eftalites par un épisode, enfin voilà, qui est relaté par les textes. Et cet épisode est évidemment, on pourrait dire, le point culminant de l'histoire des Eftalites. Ça se passe en fait relativement au début de leur destinée impériale. C'est les circonstances tout à fait extraordinaires dans lesquelles ils ont infligé une terrible défaite militaire à l'Iran. Alors là, on est vraiment au cœur, à la croisée de plusieurs faits que nous avons mentionnés. La prise en otage de l'Iran sassanide jusqu'en 531, où l'Iran sassanide va être saigné à blanc par un tribut qui l'amène, selon certains calculs, à verser aux Eftalites la plus grande partie de la masse monétaire qu'il émet. Et s'il y a des troubles sociaux, précisément à ce moment-là, en Iran sassanide, avec la révolte, avec le mouvement révolutionnaire Mazdakit, c'est peut-être aussi en partie à cause de ça. La force et la discipline des armées eftalites, évidemment, l'arrière-plan nomade. Alors tout ça sort magnifiquement de cet épisode qui est donc qu'on connaît par deux sources principales, Procope et Tabari. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces sources n'est dépendante de l'autre. Les points communs extrêmement fort entre les deux récits viennent tout simplement de ce que ces deux récits racontent la vérité. L'information de Procope est probablement venue par le canal habituel par lequel les historiens byzantins connaissaient les histoires les démêlés sassanides sur les fronts orientaux, c'est-à-dire les récits d'Arméniens incorporés dans l'armée sassanide et qui, revenus au pays, racontaient ce qui s'était passé. Quant à Tabari, il dérive des annales royales, enfin le livre des rois officiels, et vous allez voir, c'est vraiment exactement le même récit. Alors Procope, dans la plaine où les Perses devait faire irruption dans le pays des Eftalites. Cette plaine, on sait à peu près où c'est à l'ouest de Bactre. C'est peut-être encore marqué par le lieu de l'embuscade et peut-être encore marqué par un toponyme, parce qu'il y a un endroit, une ville, occupée par une ville, qui s'appelle encore aujourd'hui Pir Narchir. Narchir, mot persan qui veut dire la chasse. Bon, Pir, c'est le maître soufi. Oui, mais ça, c'est une islamisation du toponyme. Parce que dans des sources pré-islamiques, ça s'appelle Peroz Narcher. Alors, ça pourrait être un parc de chasse d'un roi qui s'appelait Peroz, pas forcément le Peroz d'Iran dont il va être question ici, un roi kouchano-sassanide qui portait ce nom, on sait qu'il y en a eu deux. Mais moi, j'aurais tendance à penser, à interpréter ça comme la chasse, non pas la chasse de Peroz, mais la chasse à Peroz. Le piège de chasse où est tombé Peroz. Et voilà. Et donc, suite du récit, le roi des Eftalites fit marquer sur une grande longueur et fit creuser là une tranchée large et profonde. Au centre, on laissa intacte une petite portion de terre suffisante pour laisser passer 10 chevaux de front. Sur la tranchée, il fit mettre des roseaux recouverts de terre. Il ordonna alors aux forces des Huns qu'au moment où elle se retirerait du côté des Huns, donc des Eftalites, c'est son armée, qu'au moment où elle se retirerait du côté intérieur de la tranchée, elle se rassemble en une étroite colonne et passe lentement sur la portion préservée de la surface. Quand les Perses entrèrent dans le pays, le roi Eftalite, demeura avec la plus grande partie de son armée du côté intérieur de la tranchée et envoya en avant un petit détachement qui avait ordre de prendre la fuite dès qu'il aurait été aperçu. Les Perses tombèrent dans la tranchée, chaque homme, non seulement les premiers, mais aussi ceux qui suivaient, avec leurs chevaux et leurs lances, se tuant les uns et les autres. Parmi eux étaient Peroz et ses fils. Un texte indique qu'il y avait 7 fils qui ont péri là. Alors, on peut supposer évidemment c'est pas dit, mais c'est probable, qu'au fond de la tranchée, il y avait des pieux aiguisés. Bon. Et d'autre part, vous imaginez le tintamarre de l'armée sassanide bardée de fer de pied en cap, les chevaux eux-mêmes portant des armures, et tombant là-dedans. Non. Alors, ce que nous raconte Tabari, Arshunwar, roi des Eftalites, on a vu qu'en fait, c'est un titre sogdien. Donc ça pourrait indiquer qu'à ce moment-là, disons, c'est la branche des Eftalites qui a affronté les Sassanides est plutôt centrée sur Samarcande, ordonna de creuser une tranchée derrière les lignes de son armée, large de 10 coudées, donc 5 mètres, et profonde de 20, 10 mètres. Il fit mettre au-dessus des branchages légers recouverts de terre. Puis il se retira non loin de là avec ses troupes. Péroz fut informé qu'Arshunwar avait quitté son camp avec ses troupes, et il n'eut aucun doute qu'ils étaient en fuite. Il ordonna de battre les tambours et chevaucha à leur poursuite à la tête de ses troupes. Quand ils eurent atteint la tranchée, ils se précipitèrent aveuglément sur ce qui la recouvrait. Péroz et la masse de son armée y tombèrent et périrent jusqu'au dernier. Arshunwar fit un mouvement circulaire jusqu'au camp de Péroz et s'empara de tout ce qui y était. Il fit prisonnier le chef des mages. Parmi les femmes qui tombèrent entre ses mains se trouvait Péroz d'Ort, la fille de Péroz. Il alla la faire chercher, souhaitant s'unir sexuellement avec elle, mais elle refusa. Apparemment, elle n'a pas refusé très longtemps, parce qu'on sait que de cette union est née une fille qui plus tard va épouser son cousin, le roi d'Iran. Alors, petit commentaire sur ce dernier détail. Cette impatience du vainqueur de consommer la fille du vaincu, c'est un marqueur politique, c'est un marqueur de victoire qu'on retrouve à diverses reprises. On a par exemple l'histoire du calife abbasside Al-Mutasim, fils d'Harun al-Rachid, en 840, qui se vante de s'être uni dans la même journée avec les filles de ses trois pires ennemis qu'il venait de vaincre, les rebelles Barbak, Maziar et Haïdar Afshin, qui était en fait son général en chef originaire de Sogdiane, qui l'avait liquidé. Bon. On voit très bien, c'est une ruse de chasseur. Le chasseur habitué à rabattre le gibier, des battues massives de gibier, généralement des gazelles, des onagres, etc., dans des plaines. La fuite simulée, ça c'est également une ruse typique des peuples de la steppe. Et voilà. Alors, c'est pas le piège où est tombé Péroz, mais ça vous donne une idée de ce que ces populations d'Asie centrale étaient capables de construire. C'est un piège à gazelle. À l'ouest du Khored, sur le plateau de Lousturt, le bord du plateau de Lousturt, qui est en fait qui est une zone de déplacement massif de troupeaux, c'était aussi une zone de déplacement massif de nomades, le bord de ce plateau est complètement semé de pièges que je vous indique ici. En fait, alors là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas des tranchées, c'est des murs maçonnés en pierre sèche. Mais la fonction est la même. C'est des entonnoirs, comme est le principe de la tranchée eftalite, où on laisse une petite distance non creusée au milieu qui va servir de leurre. Alors, voilà, vous voyez un premier entonnoir ici. Alors, il faut vous dire que tout ça, c'est sur des centaines de mètres. Et il y en a des dizaines. Un premier entonnoir ici, un autre entonnoir ici. Parfois, ces pièges à gazelle ont été pris pour des fortifications. Dans certains cas, ce n'est pas très facile à distinguer, mais ce cas-là est bien précis. C'est un piège à gazelle. Alors, ça a été réétudié assez récemment, systématiquement, par Vadim Yagodin, qui était un élève de Tolstov, et Alison Betts, qui est donc l'archéologue australienne qui est en train de fouiller la première capitale du Khorezm, Akhchakhankala, dont j'ai parlé il y a 2 ans, et qui en fait était venu en haut Khorezm pour étudier les pièges à gazelle, qu'elle avait par ailleurs, dont qu'elle avait commencé à étudier en Jordanie. Alors, il faut distinguer ça d'autres grands enclos animaux qu'on connaît par ailleurs par les textes et l'archéologie, qui sont les limites des parcs de chasse, les paradis, ce qu'on appelait les paradis en Iran ancien. On en a repéré près de Samarcande, d'époque antique, et récemment, on en a repéré un immense près de la capitale abbasside de Samarra. Alors, ce n'est pas vraiment la même chose, parce que les parcs de chasse, ça en sert des réserves où il va y avoir des battues. Alors qu'ici, ce sont des pièges destinés non pas à des animaux qu'on garde dans des parcs, mais à des animaux sauvages qui se déplacent sur des voies migratoires qu'on a repérées. C'est exact. Les Ephtalites ont tout simplement transposé cette technique à la guerre contre l'armée sassanide. Et ça a évidemment très bien marché, puisque bon, ils avaient déjà battu Péros 2 fois, mais alors là, le roi est mort, plusieurs de ses fils sont morts, une grande partie de ses meilleurs, probablement une partie de ses meilleurs généraux et officiers sont morts aussi, l'Iran est complètement à genoux. Après cela, les Ephtalites ont été débarrassés définitivement de l'hypothèque iranienne. Il n'y a plus de tentative iranienne pour venger la défaite de Péroz. Au contraire, au terme de l'armistice qui finalement a été conclu, les Ephtalites ont fourni aux Iraniens des contingents qui sont allés les aider à combattre les Byzantins, comme j'ai dit. À partir de ce moment-là, les Ephtalites ont compris que le danger pour eux venait plus de l'ouest, il venait du nord, où visiblement on avait des indices de réorganisation des tribus, de grands remue-ménages. Alors, on est en train actuellement de travailler, comme je vous l'avais dit quelques séances plus tôt, sur d'éventuelles explications climatiques qui pourraient expliquer cela. Toujours est-il que c'est probablement à l'époque ephtalite qu'en Sogdiane, vous voyez ici Samarcande ici, Boukhara ici, se retrouve systématisé un système de grands murs. Alors, vous voyez, ça c'est tiré du livre d'Étienne de la Vessière sur les marchands sogdiens. Vous avez en tiré les parties du mur qui existent encore, qu'on voit encore, et en pointillé les parties qui ont été décrites avant l'époque moderne, et maintenant on ne voit plus rien. Alors, n'imaginez pas la Grande Muraille de Chine. Ce sont des murs qui aujourd'hui se remarquent assez peu. Ce sont des levées de terre, éventuellement renforcées par des briques, avec des rangées de fortins. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le mur tel qu'il existe, tel qu'on le voit ici dans son plus grand développement, qui encore une fois est probablement de l'époque ephtalite, puisqu'on ne voit pas pourquoi les Turcs auraient construit un mur comme ça, alors qu'eux-mêmes dominaient les deux côtés. Pour les ephtalites, ça faisait sens. Ce mur a réuni des tronçons qui probablement avaient été construits par les oasis individuellement. On sait des murs boucliers, on sait qu'il y en a à Bakr, j'en avais parlé il y a 2 ans, il y en a à Merv, il y en a. Bon, et alors là, on voit très bien qu'il y en avait un tout autour de l'oasis de Boukhara. Alors ça pourrait être antérieur aux Ephtalites. Actuellement, il y a une opération archéologique conduite dans cette zone, la partie est du mur de l'oasis de Boukhara, par notre collègue de New York, Søren Stark, que j'envisage d'ailleurs de faire venir ici, parce que je vais peut-être faire une journée, à un moment une journée d'études ou un séminaire ou peut-être même une partie de cours sur la question des grands murs. Il étudie à la fois des fortifications associées aux murs. Maintenant, on a des nouvelles techniques de datation. Même quand on n'a pas de céramique, pas de monnaie, il y a des techniques de datation par isotope qui font qu'on peut, on peut arriver à proposer des dates pour les remblais. Il arrive à la conclusion que le mur d'Oasis a dû préexister aux Eftalites, mais là, ça a continué à être en service, dans certains cas jusqu'en pleine époque islamique. Et c'est probablement à l'époque des Eftalites que tout ça a quand même pris cette consistance. Le nom actuel de ce mur, il est connu sous le nom de Kampir Diwal. Kampir, ça veut dire la jeune fille, c'est-à-dire en persan, Kampir, celle qui n'est pas beaucoup vieille. Bon, donc c'est la jeune fille. Et c'est toujours les mêmes légendes qui sont associées. C'est la fille du roi qui tombe amoureuse du chef ennemi et qui livre la forteresse. On a ça absolument partout. C'est un thème folklorique très répandu. Alors, l'histoire des Eftalites se termine au bout d'un siècle parce que donc, les Sassanides n'ont jamais... Je voulais, à propos de la défaite de Péroz, ajouter un commentaire... Péroz est le dernier roi sassanide qui est combattu à la tête de ses troupes. Et probablement, c'est dû aux circonstances dans lesquelles il est mort. Les premiers rois sassanides, on les voit dans les récits romains, ils sont à la tête de leurs troupes. On voit même que Shapur II à Amida s'expose, il manque d'être atteint par un trait de flèche. Mais il y avait un vieil interdit à l'époque achéménide qui était que le roi ne doit pas combattre à la tête de ses troupes, ne doit pas s'exposer. D'où des analyses très intéressantes qu'a faites notamment Pierre Briand sur la lâcheté de Darius. Darius qui fait tourner son char à la bataille de Gaugamel et qui s'enfuit. Du point de vue grec, c'est un lâche, puisque un chef grec combat et meurt à la tête de ses troupes. Mais du point de vue iranien, Darius n'est pas un lâche. C'est quelqu'un qui a obéi à l'injonction de ne pas exposer la personne royale au combat. Alors, visiblement, cette injonction a été suspendue au début de l'époque sassanide, comme elle l'était apparemment à l'époque parthe, et à partir de Péroz, on ne voit plus les rois qui combattent à la tête de leurs troupes. Dans tous les récits de bataille qu'on a, c'est des généraux qui combattent. Le roi ne combat pas, ce qui est aussi une des raisons qui vont entraîner en fait, le déclin de la monarchie iranienne, c'est qu'elle perd, elle perd peu à peu sa légitimité auprès des armées. Bien. Ça, c'était une incidente. Alors, finalement, en 556, Khosrô Ier, petit-fils du malheureux Péroz, recommence le coup de l'alliance de revers. Cette même alliance de revers qui, un siècle plus tôt, avait mis les Eftalites sur le trône, hein, puisque Péroz s'était appuyé sur eux contre les Kidarites. Alors là, Khosrô va s'appuyer contre les Eftalites sur un peuple qui vient d'émerger en Haute-Asie, qui sont les Turcs. Turcs orientaux, Turcs occidentaux. En l'occurrence, les Turcs occidentaux. Cette alliance va marcher parce que dès 556, les Turcs conquièrent la Sogdiane. Là, nous le savons assez précisément par les Chinois. Et en 560, donc ils ne perdent pas de temps, il s'empare du Tokharestan. On peut revenir sur la carte, qui est au sud de la Sogdiane. Excusez, le programme est un petit peu paresseux. Voilà. 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 Donc. Les Eftalites sont solidement établis jusqu'à Samarcande. Voilà, l'Empire Eftalite déborde sur le nord-ouest de l'Inde. En gros, c'est tout ça, l'Empire Eftalite. Les Turcs arrivent par là Et donc, on leur laisse la Sogdiane, que les Sassanides n'avaient jamais dominée, et le Torarestan, l'ancienne Bactriane, se trouve séparé entre zone sous contrôle sassanide, zone sous contrôle turc. Ça ne va pas durer. Très rapidement, il va y avoir des incidents, et finalement, les Turcs vont plus ou moins chasser les Sassanides du Torarestan, sauf bref épisode de tentative de reconquête. Alors, pour cette conquête, c'est la dernière invasion nomade que va subir l'Asie centrale avant. L'invasion arabe, oui, mais c'est une invasion nomade aussi, mais elle ne vient pas du même endroit. C'est la dernière invasion steppique que va subir l'Asie centrale avant la fin du Xe siècle, l'arrivée des dynasties turques. Et encore, les dynasties turques ne sont pas arrivées par invasion, elles sont arrivées parce qu'elles sont, en fait arrivées par l'armée. Ce sont la prise de pouvoir par les Ghaznévides, les Karakhanides, c'est la prise du pouvoir de généraux et de troupes turques auxquelles les monarchies iraniennes avaient confié les clés de leur armée. La première véritable prise de pouvoir accompagnée de déplacements importants de population, ce sera les Seldjoukides, au milieu du XIe siècle. Donc, les Turcs, entre les Turcs 550 et les Seldjoukides 1140, il n'y aura plus d'invasion de la steppe. Il y aura des incursions, des interférences au moment de la conquête arabe. Parfois, les Sogdiens appelleront à la rescousse les Turcs, mais ça va toujours être des troupes assez réduites. Ça ne va jamais plus être des invasions. Et là, ça pose évidemment un problème. Pourquoi succédant à deux siècles où les invasions, il y a eu une invasion après l'autre, cinq siècles où il n'y a plus d'invasion. Et c'est à nouveau là que peut-être des facteurs climatologiques pourraient apporter une solution. On n'a pas plus que pour les invasions précédentes, on a pour l'invasion turque des récits de sièges ni de dommages subis par les populations civiles. On a quand même un témoignage de panique par une source bouddhique. C'est un pèlerin qui est en fait, il n'est pas chinois, il est indien, mais il va terminer sa vie en Chine. Il a été publié seulement il y a quelques années, il s'appelle Narendra Yashas, voilà. Il était assez lent. Il prêchait le message bouddhique. Il se retrouve à Khotan en 556, puis il part vers le nord. Donc par là, le Semirichye, Bejbalik, au nord de Turfan, plutôt par là. Son idée étant de reprendre après la route vers l'ouest, passer par la Sogdiane et redescendre vers l'Inde, son pays, comme ont fait avant lui les pèlerins chinois. Et il ne peut pas, parce qu'en 555, il est donc là, au nord de Turfan, et le récit de sa vie dit qu'il ne pouvait pas continuer vers l'ouest, la route était coupée par l'invasion des Turcs. Alors, c'est précisément cette année-là. Donc ça a dû être un gros remue-ménage. Et du coup, Narendra Draya change son plan de carrière. Il ne va plus prêcher la parole bouddhique à l'ouest. Il va aller en Chine, où il va terminer sa vie centenaire et à la tête d'une grande école de traduction que l'empereur lui a offert. Bien. Donc c'est le seul récit qui nous donne un petit peu de substance sur les circonstances de cette invasion. Alors, l'originalité, cette conquête turque, c'est la dernière. Et par rapport aux précédentes, les Chionites, les Kidarites, les Eftalites, elle a une originalité, c'est qu'eux, ils vont s'arrêter sur la ligne de l'Hindoukouche, ici. Ou plutôt, ils vont la déborder au bout d'un siècle seulement. Et ça, c'est nouveau. Et je pense que c'est probablement lié au fait que l'assise de leur pouvoir reste jusqu'à la fin très solidement ancré en Mongolie, au Semirechye, territoire du Nord. Alors que le cas des précédentes migrations nomades, ce sont des gens qui, certes, sont arrivés du Nord-Est, de l'Altaï, mais qui, finalement, se sont établis sur les pâturages de la Bactriane orientale. On en est sûr pour, en fait, on en est sûr pour les Kidarites et pour les Eftalites. Et du coup, les bases à partir desquelles ils vont rayonner vont se trouver au sud. Et du coup, rapidement, ils vont s'intéresser aux routes commerciales et à ce qu'il y a à piller, les monastères bouddhiques qu'il y a à piller dans l'Inde du Nord. Ça ne sera pas le cas des Turcs. Leur univers géopolitique se trouve plus au nord. Ils n'auront pas pendant longtemps de relations avec l'Inde, contrairement à leurs prédécesseurs. Leurs relations seront avec la Chine. Alors, avec cette dernière vague de conquête, donc milieu du VIe siècle, j'arrête provisoirement la narration historique. Et maintenant, on va en venir à la deuxième partie du cours, c'est-à-dire plus austère, je ne vous le cache pas, la descente sur, je ne dirais pas au ras des pâquerettes, mais enfin, la descente sur le terrain archéologique. Comment est-ce que tous ces grands bouleversements, ces grandes migrations, ces grands épisodes guerriers, ces grandes transformations se sont traduites au niveau de l'urbanisation, des fortifications, etc. Alors, quand on va donc aborder le terrain, on va devoir garder à l'esprit les grands cadres définis par tout ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que nous sommes donc ces deux siècles, hein, donc 350-550 en gros, ce sont des périodes de migration répétée, important, migrations qui toutes ont été suivies par des processus de sédentarisation. Ce sont également, et par voie de conséquence, des époques de militarisation de la société. Et enfin, ce sont des époques d'afflux monétaire, où l'Asie centrale devient un protagoniste extrêmement dangereux et menaçant pour les civilisations sédentaires des environs, pas la Chine vraiment qui a ses propres problèmes avec ses propres nomades, mais l'Inde et surtout l'Iran. Et cette situation, on sait que, enfin, au moins les Kidarites et les Eftalites l'ont utilisée pour prendre en otage l'Iran et en soustraire de grandes ressources monétaires. Et quand on voit la prolifération de fortifications, de fondations de petites villes fortifiées, etc., à cette époque, il faut toujours se garder ça en tête. Il n'y avait pas que les ressources agricoles. Il y a le commerce, évidemment, et ça compte beaucoup, qui se développe considérablement à cette époque entre les mains des Sogdiens. Mais il y a aussi le tribut, le butin. Voilà. Ce sont des modèles historiques qu'on retrouvera plus tard quand il s'agira notamment de l'expansion viking. On voit très bien que la construction de villes, l'expansion économique évidente des pays scandinaves à cette époque, c'est la conséquence de transferts de richesses lié au départ à l'activité guerrière des Vikings. On peut penser que pendant ces deux siècles, l'Asie centrale a vécu des processus analogues. Des considérations. Alors oui, excusez-moi, je vais tenter de suivre les instructions qu'on m'a données. Alors voilà, hop. Oui, alors, ah oui, voilà. Mon Dieu, j'y arrive. Oui. Là, je me mets sur ce programme. D'accord. Je vais sur Diaporama. Incroyable, j'y suis arrivé. Bon. quelques considérations préalables. Quand on parle de l'arc d'archéologie de l'Asie centrale, on revient toujours à Tolstov. J'ai beaucoup parlé il y a 2 ans, qui en a été, enfin, on peut vraiment dire qu'il en a été le principal fondateur. Ça va, monsieur, j'y suis arrivé. Tolstov a proposé dans son grand livre, enfin plus son grand livre, L'Ancien Khorezm, paru en 1948, la même année, un livre sur les traces de l'ancienne civilisation du Khorezm, qui était davantage destiné à un public plus large, et qui a fait l'objet quelques années après d'une traduction en allemand, et en plus de gros comptes rendus par Roman Girschmann, qui fait que la diffusion de ces idées en Occident a quand même été vraiment rapide par rapport à celle d'autres archéologues soviétiques. Tolstov met en évidence, propose un schéma théorique en 1948. Et ben voilà, dans les siècles dont nous parlons, 4e, 5e, 6e, dans le schéma de périodisation marxiste qui est le sien, on passe de la société antique esclavagiste à la société médiévale féodale. Alors aujourd'hui, chez les archéologues d'Asie centrale, on ne trouve plus esclavagiste, on ne trouve plus féodal, mais on trouve toujours antique et médiévale. La périodisation n'a pas changé, sauf pour certains. Ils ont simplement changé la rhétorique. L'un des marqueurs de la féodalisation, c'est la multiplication des ensembles fortifiés, mais pas les énormes villes comme on avait eu à l'époque antique, des ensembles fortifiés de taille plus modeste, et surtout, partout, des châteaux, des fermes fortifiées, des châteaux isolés, des forteresses gouvernementales, des châteaux partout. Alors, j'emploierai donc pour ce phénomène un terme qui a été introduit et mis à l'honneur chez nos historiens médiévistes occidentaux par mon ancien collègue Pierre Toubert, qui a proposé pour l'Italie du Haut Moyen-Âge le terme d'encastellamento, qu'il a trouvé dans ses sources, les historiens du Haut Moyen-Âge occidental utilisent très largement ce terme aujourd'hui. Il y a un encastellamento au Khorezm et il y a un encastellamento partout en Asie centrale pendant ces siècles. Alors, il a donc mis les systèmes fortifiés au cœur de l'analyse archéologique. Ils n'en sont pas sortis depuis. Ils ne sont pas sortis du cœur de l'analyse archéologique pour la bonne et simple raison qui constitue encore aujourd'hui l'essentiel de la documentation dans ce domaine, à la fois en quantité et en accessibilité. Tout simplement parce que quand on a des architectures en terre crue, ce qui reste visible, ce qui s'offre immédiatement au regard de l'archéologue, ce sont les systèmes fortifiés. Pour le reste, ça ne s'offre pas au regard comme cela. Il faut de longues et coûteuses campagnes de fouilles. Au Khorezm, on peut, ou plutôt on pouvait à l'époque de Tolstov, faire beaucoup d'observations sans fouilles. Je montre ici des dessins qu'il a publié c'est pas dans Drevni Khorezm, c'est à la même époque. J'insiste, l'importance des dessins dans l'œuvre de Tolstov et de ses contemporains. Il savait très bien que les techniques de reproduction, de photographie et surtout de tirage photographique disponibles à l'époque dans l'édition soviétique étaient le plus souvent catastrophiques. On a des photos. On doit travailler encore aujourd'hui avec des photos pathétiques, retouchées. L'art de la retouche était très utilisé politiquement, comme on sait. Trotsky transformé en pot de fleurs. Il a été après très utilisé en Chine, mais il était utilisé aussi par les archéologues. Donc, pour compenser cela, ils ont beaucoup dessiné, et très bien dessiné. Et encore aujourd'hui, les publications russes se signalent par la très grande qualité des dessins, qui sont des dessins à la fois évocateurs, élégants et intelligents, parce qu'ils sont interprétatifs. Alors voilà, donc une planche de Tolstov s'appelle Oussad, on pourrait traduire ça manoir, oui, enfin domaine rural avec donjon, c'est une typologie. Et pour ça, il y avait en fait pratiquement pas besoin de fouiller. Voilà, pour chaque site, petit site, il donne le dessin. Et les dessins, c'est lui qui les faisait, ou alors c'était son frère. Il a fait venir des artistes rien que pour illustrer les publications. L'un d'entre eux étant le fameux Savitsky, qui est resté et qui a créé l'extraordinaire musée des avant-gardistes à Noukous. Voilà, manoir, enfin domaine rural, donjon. Domaine rural, donjon. Petit plan, fait non, pratiquement sans fouille. C'était tout ça, ça sortait du sable. Et la silhouette. Et il y en avait partout, partout, partout de ces châteaux. Alors voilà, ça c'est domaine rural sans donjon. Vous voyez, hein, on n'a que la cour, avec parfois une porte un peu renforcée. Il n'y a pas de donjon. Voilà. Attendez, est-ce que j'ai mis... Il y en avait un autre que j'avais voulu... Voilà. Château isolé. Ouais. Alors, c'était... Bon, tout ça, c'est d'une datation assez imprécise. Non, disons, du 5e au 8e siècle. Mais on voit encore très bien... l'extraordinaire conservation, les décors, les archères et ce qu'on appelle les décors à gaufrures, des semi-colonnes qui agrémentent. On s'est aperçu après que c'était partout en Asie centrale. Mais au Corrèze, ça s'offrait au regard du voyageur. Ces châteaux, il y en a des centaines dans le pays. Alors, aujourd'hui, n'imaginez pas que si vous... Il faut aller au Corrèze, c'est un pays magnifique à visiter, mais n'imaginez pas que vous reverrez tout cela. Beaucoup de ces sites ont disparu, tout simplement par l'effet de la remise en culture, de l'irrigation. Alors, certains de ces châteaux subsistent de manière très impressionnante, mais ce sont ceux qui sont sur les hauteurs. Alors, vous avez ici... l'extraordinaire château d'Ayaskala II, qui se trouve, il est construit sur un piton naturel, ce qui fait qu'il a subsisté. Et vous pouvez encore voir les gaufrures, le décor de semi-colonnes qui l'entoure, avec chaque fois des archères. Alors comme j'avais eu l'occasion de le signaler, ces archères sont parfois vraies et souvent fausses. Mais évidemment, l'ennemi qui va venir attaquer, il ne connaît pas la différence. Donc, elles ont un effet dissuasif. Bien. C'est une approche, évidemment. Cette approche par les châteaux, les systèmes fortifiés, est plus limitée que les possibilités qui s'offrent à l'archéologie occidentale pour explorer ces siècles-là. Mais bon, ce matériel des châteaux a été remarquablement utilisé. Je rappelle que... à la fin des années 70, quand Henri-Paul Francfort a fait, sous la direction de Paul Bernard, ce qui était en fait la première thèse d'un archéologue français utilisant massivement les matériaux d'Asie centrale, Paul Bernard voulait lui faire au départ une thèse sur l'urbanisation de l'Asie centrale. C'était pas possible à cette époque, il n'y avait pas le matériau. Il a réorienté vers les systèmes fortifiés. Il en a publié une version abrégée de son travail en 79 et il a montré tout ce qui avait attiré de ses publications. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, le livre qui, disons, le plus synthétique, le plus intelligent, celui qui fait vraiment le plus autorité, c'est celui de notre regretté collègue Grégory Semionov. La fortification sogdienne des 5e, 8e siècles. Semionov est mort prématurément en 2007. C'était un élève de Marchak et il avait pendant, enfin, il avait d'abord travaillé à Penjikent. Son livre est issu de sa thèse largement fondée sur les remparts de Penjikent. Et ensuite, il a travaillé sur le site de Pykent, sur lequel le musée de l'Ermitage continue à fouiller. Site très intéressant, un peu moins excitant que Penjikent pour le prix islamique, parce qu'il y a des niveaux islamiques jusqu'au XIe siècle qui recouvrent, qui ne permettent pas de trouver la même richesse, les mêmes richesses artistiques qu'à Penjikent. Mais justement, c'est très intéressant pour étudier la transition des périodes. J'ai d'ailleurs été amené à en parler à mon cours la première année. Alors, il y a d'autres monographies régionales en russe. Il faut dire que, bon, sur ces questions des châteaux, la bibliographie est absolument est gigantesque, notamment en russe. Non, très, très nombreux articles, très dispersés. Pour s'orienter, il y a, disons, trois monographies régionales principales qui regroupent les informations, toutes en russe. Il y en a une par Litvinsky et Soloviev en 85, « La culture médiévale du Tokharistan », donc ça prend la partie nord du Tokharistan. Il y a en Pugachenkova et Rdveladze en 90, « La Bactriane Tokharistan du Nord », mais justement, ça ne fait pas double emploi avec Litvinsky et Soloviev, parce que Litvinsky et Soloviev travaillaient au Tadjikistan, Pugachenkova et Rdveladze en Ouzbékistan. Donc, c'est pas les mêmes zones qui sont couvertes. Et puis, sur le Khorezm, il y a une chercheuse, une collaboratrice de Tolstov, Elena Nerazik, qui est une des dernières collaboratrices encore en vie de Tolstov et qui est une mine d'informations orales sur l'expédition du Khorezm. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à travailler sur justement ces questions d'urbanisme, de réseaux villageois, etc., à partir d'une oasis dont je vais être amené à parler, Berkoutkala, qui, à l'époque où elle y a travaillé, était intacte. On s'y promenait. Il y avait les châteaux, les fermes, les maisons. Il manquait plus que d'avoir la clé. Elle a travaillé 40 ans là-dessus. Et finalement, en 2013, elle a publié une nouvelle synthèse qui s'appelle « La formation de la société du Haut Moyen-Âge sur le bas Amoudaria ». Vous ne trouverez pas ça chez Amazon. C'est ces livres avec très petits tirages qu'on a seulement quand on connaît les archéologues. C'est à la fois un avantage et un inconvénient du système ex-soviétique. On peut se dire, bon, une vie entière passée à étudier une région, un thème, une oasis, est-ce que ça n'entraîne pas quand même une certaine sclérose ? Alors, c'est vrai que, personne ne va aller sur les brisées de Madame Nerazik. Il y a dans l'archéologie soviétique un sentiment extrêmement fort de droit intellectuel de l'archéologue sur son matériel. Alors, dans certains cas, ça a des effets pervers. Je ne vais pas citer de nom, mais l'archéologue s'endort un petit peu sur son matériel, les choses ne sortent pas et ne peuvent pas sortir, de son vivant. Et puis, quand ils sont morts, la famille essaie de négocier la vente des archives. Bon, là, c'est... On ne peut pas les blâmer dans les conditions économiques des archéologues aujourd'hui. Mais en même temps, quand ce sont de grands esprits, ça fait une recherche qui mûrit, qui est vraiment... les livres de Madame Nerazik sont tout à fait enthousiasmants. C'est pas facile à lire, hein, il faut vraiment s'accrocher, même quand on lit bien le russe, mais c'est d'un très très haut niveau d'information. Alors, on peut dire que l'inventaire global de ces sites fortifiés, de ce qui en subsiste aujourd'hui et de ce qui en subsistait à partir du disons, à l'époque où on a commencé à les enregistrer, cet inventaire est quand même maintenant très avancé dans toutes les régions, sauf du côté afghan, où l'inventaire n'avait fait que commencer lorsque les événements ont rendu les choses impossibles. La reprise de l'activité archéologique par la DAFA depuis 2002 n'a pratiquement pas touché cette période dont je parle ici. Ils se sont surtout intéressés à des sites antiques, et très bien, ils ne pouvaient pas tout faire. Mais là, on voit vraiment s'il y a beaucoup moins de châteaux connus du côté afghan, c'est pas qu'il y en avait moins, c'est que c'est moins étudié. Une exception, c'est autour de Bamiyan, où ça a été étudié depuis longtemps par Marc Lebert, et l'étude est maintenant reprise par Thomas Lorrain. Là, ce sont des choses qui avancent. La tâche qui s'impose aujourd'hui, mais elle n'est pas facile, si on veut arriver à faire dialoguer mieux les restes archéologiques et les textes qu'on a et dont nous avons vu dans les séances précédentes, qui sont quand même là nombreux et précis, c'est l'affinement des chronologies. Et ce n'est pas une tâche facile, comme on s'en est rendu compte lors d'un colloque qui s'est tenu à l'Ermitage en octobre 2015, à la mémoire de Grigori Semyonov. Et le thème du colloque, c'était précisément les chronologies des sites d'Asie centrale. On a vu que c'était difficile. Les monnaies, les inscriptions, il n'y en a pas, pratiquement pas, pour ces époques, sauf les inscriptions de fondation de Kultobé au Kazakhstan, dont j'ai parlé il y a deux séances. L'indice matériel le plus précis, le plus datable, ce sont les monnaies. Alors, là, les chronologies monétaires sont vraiment en voie d'amélioration considérable, notamment par les efforts de l'école de Vienne. On a liquidé des théories chronologiques très invraisemblables qui, pendant longtemps, avaient tenu le haut du pavé. Les théories de Goebbels, avec sa chronologie extrêmement tardive des couchants et de ce qui avait suivi. Les théories de Zeymal, qui n'avait pas les mêmes prémices que Goebbels, mais qui, lui aussi, avait des chronologies très tardives. Zeymal étant, par ailleurs, un remarquable numismate, même ceux qui savait qu'il avait tort, ne pouvait pas aller contre. Il faut savoir aussi que Zeymal travaillait à l'Ermitage et qu'à l'Ermitage, l'Ermitage fonctionne comme un corps extrêmement compact. C'est-à-dire que, je pense plus que ce soit le cas maintenant, mais à l'époque soviétique, ils avaient des réunions et on décidait à la réunion quelle serait la doctrine de l'Ermitage. Et donc, même ceux des savants de l'Ermitage qui savaient au fond d'eux-mêmes que ce n'était pas la bonne solution se sentaient obligés de se taire. Voilà, et c'est Marchak qui me l'a raconté. Marchak, pendant toute sa carrière, a rusé autour de la chronologie Kouchane pour ne pas avoir à écrire quelque chose là-dessus, parce qu'il se doutait très bien que Zeymal se trompait d'un siècle et demi. Mais Zeymal était le numismate de l'Ermitage, et par ailleurs un homme remarquable et un proche ami de Marchak. Et donc, c'était l'omerta. Bon. Sur les monnaies, les choses, la chronologie avance, mais le problème, c'est qu'on trouve peu de monnaies bien stratifiées dans les fouilles d'Asie centrale pour ces époques, et surtout dans les fouilles de remparts. Les remparts, ce n'est pas des endroits très fréquentés. Donc, a priori, une fouille de remparts, elle ne va pas souvent donner des monnaies. Ou alors, oui, parfois, on va trouver une monnaie prise dans la maçonnerie parce que c'est des monnaies qui ont été récupérées dans la terre utilisée pour les maçonneries a creusé des niveaux dans lesquels il y avait des monnaies. Ça arrive parfois. Mais ça ne donne qu'un terminus postquem. La monnaie que vous allez trouver dans le rempart, elle peut avoir 4 siècles, elle peut être de 4 siècles plus ancienne que la construction du rempart. Voilà. Donc, j'en termine pour aujourd'hui. Je parlerai ensuite, la semaine prochaine, de du deuxième fossile directeur, qui est la céramique, pour lequel la situation également, malheureusement, manque cruellement de précision. Voilà. Alors la semaine prochaine, excusez-moi, la fois prochaine, c'est-à-dire dans 15 jours.